Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu de cette édition consacrée au Covid-19, la coalition saoudienne déclare un cessez-le-feu au Yémen pour contenir le coronavirus. La chef des droits de l'homme de l'ONU souligne la nécessité d'une réponse coordonnée. En République centrafricaine, les humanitaires sensibilisent la population au Covid en faisant du porte-à-porte. Et en dossier, nous revenons sur la réponse du Mali face au Covid avec son ministre de la Santé, Michel Sidibé. Le cessez-le-feu unilatéral annoncé par la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite a débuté jeudi au Yémen. L'objectif est de faciliter la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans ce pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appelé à un cessez-le-feu mondial, s'est félicité de cette annonce. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Le secrétaire général de l'ONU estime que ce cessez-le-feu peut aider à faire avancer les efforts de paix au Yémen, ainsi que la réponse de ce pays à la pandémie de Covid-19. Il a invité les rebelles Houthis et le gouvernement du Yémen, qui est soutenu par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, à s'engager de bonne foi et sans conditions préalables dans des négociations facilitées par son envoyé spécial Martin Griffiths. Selon Antonio Guterres, ce n'est que par le dialogue que les belligérants pourront convenir d'un mécanisme pour maintenir un cessez-le-feu à l'échelle nationale. Ce dialogue permettrait également la mise en œuvre de mesures humanitaires et de renforcement de la confiance pour alléger les souffrances du peuple yéménite et la reprise du dialogue politique pour parvenir à un règlement global permettant de mettre fin au conflit. Depuis 2 ans, Martin Griffiths mène une médiation entre les belligérants pour permettre un retour à la paix au Yémen. Il a souhaité hier que l'annonce du cessez-le-feu unilatéral offre un environnement propice pour conclure un accord dans un proche avenir. Le conflit au Yémen, qui dure depuis plusieurs années, a provoqué une profonde crise humanitaire. Plus de 13 millions de personnes reçoivent ainsi chaque mois une aide alimentaire des Nations Unies.
Le monde post-Covid-19 requiert une action coordonnée de la communauté, a déclaré ce jeudi à Genève la chef des droits de l'homme de l'ONU lors d'une réunion informelle virtuelle du Conseil des droits de l'homme. « Nous ne pouvons tout simplement pas revenir là où nous étions il y a quelques mois à peine avant le Covid-19 », a mis en garde Michel Bachelet. Jérôme Longuet.
Pour Michel Bachelet, cette pandémie mondiale représente un colossal test de leadership qui exige une action décisive, coordonnée et novatrice de la part de tous et pour tous. Devant le Conseil des droits de l'homme, elle a fait valoir que malgré l'éloignement physique, il importe de rester unis. L'ancienne présidente du Chili a estimé que le nouveau coronavirus a mis en évidence la nécessité d'accroître les efforts de la communauté internationale pour que toutes les personnes, y compris les plus vulnérables, bénéficient du développement. Tout en reconnaissant la nécessité des efforts nationaux, elle a souligné que seule la solidarité mondiale permettra de combattre efficacement cette crise planétaire. Elle a estimé que la pandémie ne doit pas être un chèque en blanc pour bafouer les droits humains, tout en admettant le besoin des mesures d'urgence pour répondre à cette menace. Par ailleurs, Michel Bachelet a jugé nécessaire que les gouvernements prennent des mesures pour garantir la sécurité des revenus, la protection des moyens de subsistance et l'accès aux biens et services essentiels pour les membres les plus pauvres de la société. La haut-commissaire a aussi rappelé que tout obstacle aux efforts médicaux dans un pays reste une menace pour la terre entière. Enfin, Michel Bachelet a mis en garde sur les dangers du repli sur soi, rappelant qu'il n'y a pas de place pour le nationalisme ou la stigmatisation de boucs émissaires.
La République centrafricaine compte désormais 10 cas de coronavirus confirmés, dont 3 personnes guéries. Le pays s'active pour limiter la propagation et la Croix-Rouge s'implique dans la lutte contre le Covid-19, notamment à Kaga-Bandoro. Une centaine de volontaires Croix-Rouge mènent une campagne de sensibilisation porte-à-porte dans les 8 arrondissements de la ville. L'objectif est de relayer les informations diffusées par la radio des Nations Unies dans le pays, Guira FM, sur les mesures barrières au coronavirus à l'endroit du public n'ayant pas les moyens d'écouter la radio. Dieudonné Fokar Koto, président de la Croix-Rouge à Kaga-Bandoro, est au micro d'Assium Simplice Gaba de Guira FM.
Ceux qui entendent de la radio, c'est ceux-là qui sont imprégnés de la situation. Mais ceux qui n'ont pas la radio, il a fallu que la Croix-Rouge mobilise une centaine de volontaires pour une sensibilisation porte par porte. On a commencé présentement dans le premier arrondissement. On va citer Lazare, Gerangbada, citer Bamou, Yabaka pour en finir au niveau de Serbanda. On a pris un mégaphone au niveau de l'hôpital. On a emprunté aussi dans la communauté. Et s'agissant des piles, les volontaires ont cotisé chacun 100 francs, 100 francs. Vraiment, on lance à l'endroit de la communauté d'abord, des autorités, pour qu'ils puissent vraiment nous aider, nous appuyer. appuyer à l'endroit de la MINUSCA en particulier pour qu'ils puissent vraiment nous soutenir en mégaphone, pourquoi pas les motos de trois roues.
Le Mali compte désormais 56 cas de coronavirus, dont 4 décès et 12 patients guéris. Dans la lutte contre Covid-19, le ministre malien de la Santé, Michel Sidi Bé, rappelle certains fondamentaux tirés de son expérience de lutte contre le VIH et met en garde contre le repli sur soi. Il est au micro d'Alpha Diallo.
Nous essayons de tout faire pour que lorsque les gens reviennent, que les gens soient vraiment examinés et faire un triage, faire en sorte que ceux qui présentent les symptômes, qu'on puisse les isoler et ensuite on puisse les confiner pendant un auto-isolement de 14-15 jours. Donc ça, c'est fait. Mais je crois que lorsqu'on est déjà dans une situation où on commence déjà à sentir les effets sociaux, les effets économiques, il faut faire très attention parce que nous ne pouvons pas travailler sans avoir des approches transfrontalières. Donc, il faut que les pays de la sous-région travaillent ensemble et très rapidement, on va se rendre compte que le Covid-19, cette perturbation des chaînes d'approvisionnement, c'est le choc de la demande que nous on voit par exemple certainement des baisses en termes du prix du coton, d'autres ce sera le tourisme. Donc il faut que vraiment on puisse anticiper, qu'on puisse avoir des programmes de soutien au niveau social, au niveau bien sûr humanitaire, que ce soit les personnes déplacées internes, que ce soit les populations réfugiées. Donc ça c'est vraiment une question de fond à mon avis. Et il faut surtout une solidarité, comme disait Guterres, secrétaire général. Et il faut vraiment aller vers une responsabilité partagée avec une solidarité globale agissante.
Et sur le volet prise en charge des patients, on sait que malgré les réserves de l'Organisation mondiale de la santé, certains pays comme le Sénégal semblent essayer la chloroquine sur leurs patients. Et qu'en est-il du Mali ?
Bon, moi, je pense que le fait qu'il y ait quand même une unité de coordination au niveau de la science dans la sous-région de la CEDEAO, donc c'est vraiment très, très important. Donc, il y a eu une note provenant de l'Organisation ouest-africaine de la santé sur cette question et avec, bien sûr, un protocole à suivre. Le Mali suit ce protocole. Dans des cas spécifiques, nous utilisons la chloroquine et, bien sûr, les antibiotiques pour accompagner. Et nous essayons de suivre le protocole aussi proposé par la sous-région.
Michel Sidi Bé, vous avez été un grand patron, un grand commandant en chef de la lutte contre le sida en tant qu'ancien chef de l'ONU sida. En quoi cette expérience peut vous aider dans ce combat contre le nouveau coronavirus?
Ce que je voudrais dire tout simplement, il faut qu'on ne soit pas frappé de myopie. Je vois une myopie dangereuse vraiment qui s'installe, chacun s'enfermant sur soi-même, et chacun essayant de trouver une solution à son problème. Je me suis rendu compte que lorsqu'on s'est battu contre le sida, on a gagné quand on n'a pas exclu, on a gagné quand on a ouvert nos portes, on a gagné quand on a su travailler avec toutes les forces qui sont utiles. Donc la première chose, c'est vraiment pour moi, la mobilisation politique, il faut le leadership politique et sans le leadership politique, on ne gagne pas. C'est ce que nous essayons de faire ici. Deuxièmement, il faut l'adhésion de la population. Il faut une adhésion communautaire. Il faut que les gens comprennent pourquoi c'est tellement important pour la survie de leurs enfants, de la nation. Et troisièmement, il faut nécessairement, bien sûr, la science, la technologie, l'innovation. Et c'est, moi, je crois que c'est ce qui nous a aidés avec le sida. Et c'est la même chose ici. Il faut surtout que le monde comprenne que vraiment avoir une approche qui consisterait à penser qu'on va résoudre le problème chez soi et que le problème sera résolu, elle sera très dangereuse parce que il y aura un effondrement des pays fragiles et cela va s'accompagner sur le plan économique et social par des crises énormes et cela pourrait entraîner en plus des problèmes, bien sûr, d'absence d'investissement sur le long terme qui peuvent conduire, bien sûr, à un plus grand mouvement de population, l'émigration des jeunes. Et même en dehors de ça aussi, moi je crois les crises, les violences, que ce soit la radicalisation, que ce soit tout ce que nous constatons dans notre sous-région. Et donc il faut faire attention aux conséquences de se fermer sur soi et croire qu'on aurait une solution que pour soi.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.